rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe, enregistré avec Nicolas Benita à l'occasion du 32e Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, un festival qui s'est tenu du 1er au 3 octobre dans l'Est de la France. Alors comment la pandémie, le Brexit ou encore la relation complexe avec la Russie redessine-t-il l'Europe, une Europe plurielle, et pour quels citoyens européens? C'est sans doute l'un des grands défis à relever pour la construction européenne. Et nous recevons l'ambassadrice de France, Sylvie Berman, diplomate, l'une des grandes diplomates françaises, j'ai envie d'ajouter, ambassadrice en Chine, au Royaume-Uni et jusqu'en 2019 en Russie. Vous êtes également l'autrice de Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit, et présidente du conseil d'administration de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Bonjour.
Bonjour.
Également autour de cette table, Michel Fouché, géographe, cartographe et ancien ambassadeur. Vous avez écrit « Arpenter le monde » chez Robert Laffont, « Mémoire d'un géographe politique ». Bonjour.
Bonjour.
Je me tourne vers vous, Sylvie Berman, pour cette première question. La France prendra dans moins de 100 jours maintenant la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Est-ce que c'est une Europe affaiblie par des mois de pandémie? Est-ce que c'est une Europe qui est menacée à l'extérieur ou au contraire, est-ce que c'est une Europe combative qui a été renforcée par les épreuves que la France va diriger dans ces 6 prochains mois, ce premier semestre 2022?
Alors, je crois que l'Union européenne, de toute façon, s'est toujours construite à travers les crises. Il y en a beaucoup. Il y a eu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la crise sanitaire. Mais l'Union européenne s'en est bien sortie puisque plus de 70% de la population est vaccinée. Et qu'en même temps, l'Union européenne a réussi à fournir pratiquement la moitié des vaccins qu'elle produisait au reste du monde. Elle est un peu seule à cet égard parce que les États-Unis l'ont annoncé après, mais l'Union européenne l'a fait et est la pharmacie du monde. Alors évidemment, il y a la question de la relance, mais des décisions importantes ont été prises en franco-allemand justement. Et puis tous les défis du monde, il faudra définir nos relations avec la Chine, avec la Russie bien sûr. Et puis aussi avec les États-Unis, à la suite de ce contrat AUKUS qui a été un mauvais coup fait à la France.
Au détriment des Français.
Absolument. Et donc ça visait la France, mais en réalité, au-delà de ça, ça vise aussi l'Europe et ça pose la question de l'autonomie stratégique de l'Europe. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Oui, ça sera sans aucun doute une des priorités du président Macron. Il devrait les présenter très prochainement. On peut dire sans trop de risques également qu'il va y avoir une présidence française qui sera sûrement tournée vers la jeunesse, l'environnement, le numérique. Mais pour vous, Michel Fouché, quels sont les grands dossiers que devra affronter la présidence française?
La présidence française du Conseil de l'Union européenne, parce qu'il y a aussi le Parlement et la Commission, avait fixé en Conseil des ministres au mois de novembre dernier 3 thèmes, relance, puissance, appartenance. Il faut bien se rendre compte que tout est toujours très bien préparé et puis il y a des aléas. Donc en plus, un temps utile assez court, tout le monde le sait. La question de la puissance, tout le monde a compris le sens, non pas du mot puissance, mais de souveraineté européenne. Je vois qu'au Bundestag et au ministère allemand des Affaires étrangères, on n'hésite plus à l'employer. L'ambassadeur d'Allemagne, auditionné au Sénat, emploie le terme. Autonomie stratégique, ça bloque au sens étroit. Parce que l'OTAN, parce qu'on est toujours soupçonné par les Polonais et les Baltes de vouloir doubler l'OTAN, etc. C'est pas le cas. Moi, j'avais suggéré aux autorités françaises d'élargir le concept d'autonomie stratégique aux questions technologiques, que je crois aussi importantes que les questions de défense, sinon plus importantes, parce qu'on a plus de marge de manœuvre en matière technologique et on est plus dépendant. Le défi est plus grand qu'en matière de défense, parce que la défense est toujours compliqué, il faut toujours, les États doivent ménager l'orgueil des industriels. Donc c'est toujours extrêmement compliqué. Alors il y a le thème de l'appartenance qui est important. Moi j'insiste beaucoup dans différents cercles actuellement sur non pas la France en Europe qui se projette avec ses idées. Et c'est un peu
utiliser l'Europe comme le porteur d'eau des idées.
Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on nous demande, c'est de mettre des idées sur la table et éventuellement de faire le service après vente. Donc moi j'insiste aussi sur l'Europe en France. Et là, je crois qu'on commence à comprendre ça. L'euroscepticisme français traditionnel diminue. La participation aux élections européennes était favorable. Il y a une attente, il y a un engagement. Et l'expérience d'il y a 4 ans, de la campagne électorale précédente, c'est que quand un candidat parle de ces sujets, il recueille un écho. Donc voilà, simplement, c'est une présidence extrêmement courte. Ça va durer jusqu'au 10 mars, parce qu'après, les ministres ne pourront plus s'exprimer. Mais
bon, c'est la campagne électorale française.
Ça, c'est un effet du Brexit. Il y a eu un effet cliqué. Donc, moi, je suis vraiment, comme Sylvie Berman, tout à fait satisfait de cette capacité de répondre à des défis. On a 55 usines qui produisent des... Au 1er juillet, on était déjà à 1 milliard de doses. Donc, on a démarré plus tard que les autres, parce qu'on n'est pas un État. Et finalement... On fait mieux et on est plus solidaire. Et les enquêtes qui ont été faites par des chercheurs, notamment ceux du Grand Continent, de l'École normale supérieure, auprès d'une cinquantaine d'experts européens, montrent qu'il y a une attente de leadership, surtout dans le contexte des élections allemandes, même si je pense que la coalition allemande, en fait, se formera plus vite que ce qu'on pense.
Vous avez mentionné l'effet de cliquet du Brexit. Décidément, ce Brexit, il a des effets à tous les niveaux. Donc, la présidence française, les Britanniques ne pouvant pas prendre la présidence du Conseil, ce sont les Français qui ont pris le tour sur une année électorale, ce qui va effectivement beaucoup diminuer l'efficacité réelle des décideurs. Sylvie Berman, est-ce qu'aujourd'hui, les Britanniques, c'est un vrai enjeu de rivalité géostratégique pour l'Europe ?
Moi, je pense que les Européens pensent beaucoup moins au Royaume-Uni que le Royaume-Uni ne pense à l'Europe, parce que c'est une obsession pour eux, et l'obsession est un peu de s'en détacher, d'être rivaux, de montrer qu'ils font mieux, ce qui, évidemment, n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je lisais ce matin dans le Financial Times un article disant que, de nouveau, le Royaume-Uni était l'homme malade de l'Europe. Donc, je pense pas que ce soit véritablement un défi ou une véritable préoccupation pour les Européens, même si on regrette quand même le Brexit et surtout la France, parce que c'était un pays très proche d'une autre, qui avait le même statut, même population, à peu près le même rang en termes de PMB. On travaillait ensemble aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on le regrette beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qui restent à régler, mais parce que le Royaume-Uni ne voulait pas traiter tous ces sujets, éventuellement une participation à la défense européenne, les aspects financiers, la circulation des artistes. Enfin, il y a des sujets qui restent encore à régler, sans parler de la pêche, mais qui touchent principalement la France et le Royaume-Uni. Mais c'est vrai que le climat n'est pas très positif aujourd'hui, même si ce n'est pas encore une fois la première priorité des Européens. Il y a beaucoup d'autres choses à faire.
Même avec, justement, avec AUKUS, avec ce mauvais coup fait aux Français et finalement à l'Europe, Le Figaro racontait que dans les coulisses du dernier G7, pendant qu'on débattait en public de la guerre de la saucisse, en fait, ce qui jouait, c'était la guerre du Pacifique.
Oui, mais c'est plus... ça a été un problème avec l'Australie, avec les États-Unis. Bon, pour le Royaume-Uni, il n'a plus tellement le choix aujourd'hui. C'est-à-dire, il se rallie effectivement à Washington. Et puis, c'est le cas pour AUKUS, c'est le cas dans le cadre de l'OTAN. Mais c'est pas le Royaume-Uni qui est nécessairement moteur là-dessus. Donc je ne dis pas que c'est pas un sujet, je dirais même pas une préoccupation, mais c'est pas le sujet principal.
Et est-ce que c'est pas finalement une chance pour l'Europe de pouvoir réfléchir à son autonomie stratégique, justement, même si Michel Fouché pense que cette expression-là bloque toujours, finalement, peut-être grâce aux Anglais, grâce à ce mauvais coup?
Je crois que évidemment ça conforte non seulement le président de la République, mais ça conforte les Européens dans l'idée qu'ils doivent être en mesure de décider par eux-mêmes, d'autant plus que quelques semaines auparavant, il y a eu le retrait piteux d'Afghanistan. Les Américains nous avaient demandé d'y aller avec eux. Ils ont décidé d'en partir un jour et on n'avait pas le choix. C'est pas un reproche français, parce que nous, on avait fait l'analyse, on était partis déjà avant. Mais c'est un petit peu la tendance, c'est que les choix se font à Washington et que les Européens peuvent simplement accepter ce qui se décide outre-Atlantique. Donc avec l'affaire AUKUS aussi, je crois que beaucoup d'Européens, y compris les Allemands, et Michel Fouché le disait aussi, comprennent que l'Union Européenne doit pouvoir décider et agir par elle-même. Et effectivement, Michel Fouché évoquait la question technologique qui est essentielle dans ce domaine. Mais il y a la question commerciale aussi, parce que l'Union européenne est victime de sanctions extraterritoriales américaines. Et donc, il ne faudrait pas, parce qu'un jour, il y a une croisade américaine contre la Chine, nos entreprises soient empêchées de faire du commerce avec la Chine. Donc, je pense que peut-être que le terme d'autonomie stratégique fait peur à cause du terme stratégique, mais la stratégie va au-delà de la défense et du militaire. Donc, on peut employer les termes de souveraineté, mais je pense que les Européens qui pensaient qu'en réalité la Chine voulait rompre les relations avec les États-Unis ou avec l'OTAN, ont compris que ce n'était pas ça. Et d'ailleurs, il y a quand même une chose qui est intéressante après AUKUS, c'est qu'à la suite de l'entretien du président de la République et de Joe Biden, il y a eu un communiqué qui a été publié, qui est très intéressant, parce que Joe Biden reconnaît que davantage de défense européenne peut servir également les intérêts de l'Alliance ou des États-Unis, quand eux-mêmes se sentent moins concernés par des conflits ou des défis qui sont plus proches de l'Europe.
Est-ce que, Michel Fouché, justement, ce communiqué de Joe Biden et d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qu'entendent les partenaires européens de la France ou c'est quelque chose qui est surtout noté à Paris ?
Sylvie Berman ne me démentira pas. Dans un dialogue de ce niveau, l'accord sur le communiqué est aussi important que ce qu'on dit en privé. On le négocie même souvent à l'avance. Et donc il était extrêmement important pour le président français que le président américain
verbalise
son intérêt pour une défense européenne. Parce que moi je suis quand même assez étonné de la réaction générale, peut-être sauf en France, depuis fin août, cette affaire afghane dont on peut reparler d'une autre manière, c'est beaucoup d'Européens découvrent avec stupeur, avec inquiétude, qu'ils ne sont plus au centre des préoccupations stratégiques des États-Unis. Ça les rend malheureux. Nous sommes très aliénés à l'égard, nous, pas français, mais très aliénés à l'égard des États-Unis. Souvenez-vous, l'Obamania, alors qu'il avait déjà la même stratégie de réorganisation stratégique,
hein, oui, on couvre
militaire.
Plus les...
Hein, il y a une espèce d'aliénation et une espèce de dépendance presque affective, enfin, à l'égard des États-Unis. Et je crois donc que le symbole est très important. Symboliquement, c'est très important qu'il y ait justement cet encouragement, qui était évidemment ce que c'était le prix à payer pour la conversation téléphonique. Alors, avec les Britanniques, moi, je crois que les choses sont durablement dégradées. Mais ce qu'on commence à savoir, c'est que l'origine de cette affaire, c'est Johnson. Mm. Ça n'est pas les Australiens. Et Johnson a promis à Morrison de plaider sa cause auprès de Biden. C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé comme ça a été décrit. C'est pas parti de Canberra. Il y avait des débats, évidemment. Et puis, ces sous-marins, ils les auront pas. S'ils les ont en 2040, ils en contrôleront pas l'essentiel. Et puis, il y aura des élections en Australie. Et si ça tourne, on reviendra là-dessus. Hein, parce que la question nucléaire en tant que telle fait débat en Australie depuis toujours. Hein, comme en Nouvelle-Zélande, ils ont tranché. Et l'autre chose... dans certains milieux des États-Unis, une Union européenne sans les Britanniques a moins d'intérêt. Alors, d'une part, l'Europe n'est plus au centre, bon, on est en paix, hein, mais il y a eu une perte là dont si c'est une perception qui se confirme, c'est une raison de plus pour se prendre en charge, si vous voulez. Sauf que entre ce qu'a dit Madame Merkel et ce qu'elle a fait, il y a quand même un monde. Je suis très frappé par la une, puisqu'on cite la presse anglaise, la une de l'Économiste, hein, qui on voit un aigle allemand tomber par terre sur le drapeau, et le titre c'est le chaos après Merkel. Alors le chaos après Merkel, vu par l'Économiste, c'est tout ce qu'elle a pas fait. Et c'est très inquiétant d'une certaine façon au plan politique. Ça veut dire que si on veut être populaire, il faut rien faire. Numérique, ça marche pas, l'infrastructure est dégradée, il n'y a pas eu la réforme des traits, etc. Il y a des tas de choses qui n'ont pas été faites en Allemagne, que le prochain gouvernement devra assurer, si on en croit toujours cet éditorial, mais un taux de popularité extraordinaire. Moi, ça m'interroge sur le fond. Je veux dire, l'Europe va bien, la conscience de nos intérêts va bien, la démocratie européenne peut mieux faire.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi en Europe aujourd'hui, alors je m'adresse aux géographes, à l'amateur de cartes, puisque vous n'aimez pas le mot de géopolitique, vous dites que la géographie ça passe par la carte et par la lecture de la carte, est-ce qu'il n'y a pas aussi une géographie psychologique, mentale en ce moment, brouillée dans certaines Europes, dans l'Europe du Sud, dans l'Europe des Balkans, est-ce que on parle tous de la même Europe ?
Oui, enfin bon, ça c'est un terme polysémique, c'est ce que nous disent les Russes, hein, voilà, enfin il y a l'Union qu'ils ne reconnaissent pas vraiment, il y a le continent. Bon, ça c'est, je dirais, ça fait partie de, c'est le charme de notre culture, hein, on est dans le doute, et c'est notre force, et on est dans la friction, c'est-à-dire on a des désaccords, c'est aussi ce qui fait notre force, hein, on n'a pas d'uniformité.
Je vais vous dire pourquoi je vous demande ça, c'est parce que j'ai rencontré donc Capka Kasabova, qui est autrice de L'écho du lac aux éditions Marchiali. C'est une autrice qui travaille sur la littérature du réel. Dans son livre précédent, Lisière, elle explorait aussi toute cette zone des Balkans d'où elle vient. Et elle explore cette idée, justement, d'une géographie mentale dont les Balkans portent toujours la trace.
Chaque pays est un peu comme ça. Ça commence avec une idée, ça commence avec un mythe, n'est-ce pas? Un mythe de création. Et dans la Macédoine, qui était d'abord une région, un empire dans l'Antiquité, et dernièrement un État national, c'est vraiment le cas de confondre un peu le mythe à la réalité. On pourrait dire que la Macédoine, c'est un peu la pomme de désaccord des Balkans, c'est-à-dire, mais ça fait partie du récit, en effet, des histoires que j'ai trouvées sur les côtes des lacs, des guerres différentes et comment elles étaient déclenchées. Justement, par des questions d'appartenance, de territoire, mais aussi de territoire psychique. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, comment la géographie devient un état intérieur. Donc, j'avais déjà grandi avec ce sentiment qu'on porte tous des géographies, des événements énormes, collectifs, justement. Mais qu'on les porte au niveau personnel et qu'on les transmet au niveau intime dans la famille de mère en fille.
Cette géographie intime, on la sent particulièrement bien dans cette région des lacs d'Orride et de Prespa. Nous sommes en République de Macédoine du Nord, la frontière albanaise est toute proche. C'est un endroit propice pour recueillir les histoires avec l'eau à chaque fois, véritable protagoniste.
Deux lacs, trois pays. Et cet morcellement, ce déchirement vraiment d'un territoire, d'un monde, d'un écosystème, si vous voulez, qui était complet au niveau naturel et au niveau culturel. Donc humain, ce déchirement se perçoit dans toutes les histoires que j'ai rassemblées, mais aussi cette fortitude, cette créativité de la survie, voilà, qui finalement peut-être vient un peu de l'environnement aussi, de cette présence un peu mystérieuse de l'eau.
Comme cette histoire albanaise où finalement la femme reste d'un côté de la frontière et c'est son mari Sandro qui part en Macédoine parce qu'il est dans la ligne de mire des autorités et ils ne se verront plus et ils vont grandir chacun, lui plutôt dans la réussite et elle dans une grande misère.
Oui, c'est une histoire qui m'a été racontée pendant une croisée de bateaux sur le lac de Ride par leur fils en effet et que ses parents se sont vus 50 ans plus tard. À la frontière, quand elle a rouvert la frontière yougoslave-albanaise. C'est vraiment une histoire bouleversante, mais aussi inspirante, j'ai trouvé, car leur fils, ce monsieur avec le bateau, il a trouvé une façon de pas seulement de survivre, mais de dépasser un peu la tragédie de ses parents. Et à travers de ce lien, justement, ce lien qui est un peu dans le sang avec le lac.
Il n'est pas seulement question de géographie mentale, sociale, culturelle dans ce livre. C'est aussi le récit des exodes, des exils, de tous ceux qui doivent partir.
J'ai grandi en Bulgarie, après en Nouvelle-Zélande, mais ce thème de l'immigration sériale, un peu, ça court dans les familles. Dans ma famille, je suis la quatrième génération d'immigrés en tant qu'adulte. Mais dans un moment, il y avait un jeune moine sur le lac qui m'a dit, où que tu sois, tu reviendras vers le lac. Parce que le lac, c'est un lieu de rassemblement. Les âmes reviennent ici, me dit-il, ce qui m'a paru d'abord... quelque chose d'assez ésotérique, mais après avoir passé un moment sur les lacs, j'ai vu que ça se passe en effet. Il y a un point sur le lac, le monastère de Saint-Naoum, qui est le protecteur officiel du lac d'Ohrid. D'ailleurs, les protectrices non officielles sont elles des femmes. Il y a des chansons et des poèmes et des histoires sur elles. Mais dans ce monastère, on trouve, si on y reste la nuit... on trouve la présence du lac, qui est une présence plus qu'humaine. Quand les frontières s'étaient ouvertes, après la guerre froide, il y avait déjà une vague d'immigration dont notre famille fait partie, mais il y a aussi l'immigration traumatique pour laquelle le retour n'est pas si évident. Et c'est le cas avec l'ex-Yougoslavie et tout ce qui s'est passé là, les années 90. Et voilà, tout ce thème du conflit, de la paix, du retour, mais aussi un peu ce qui est un problème européen, en général, surtout l'Europe du Sud, c'est le village vide, ce phénomène de
l'exode.
Et on se pose bien la question, ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui se passe dans une dizaine d'années, par exemple, s'il y aura un retour un peu des générations plus jeunes vers le village, que ce soit le village natal ou pas, c'est peut-être pas si important que ça. C'est plutôt s'il y a un retour aux sources, c'est-à-dire au naturel, ce qui est un peu plus en harmonie avec nos besoins.
C'était Kepka Kassabova, donc autrice de L'écho du lac. Michel Fouché, est-ce que justement pour que l'Europe aille bien, il ne faut pas que cette Europe du Sud qui se vide de sa population, cette Europe de l'Est qui vieillit, voit revenir aussi un petit peu de population? C'est quand même un grand enjeu, non, européen?
Oui, enfin, la beauté du lac, je suis allé plusieurs fois, magnifique, c'est le plus grand lac des Balkans occidentaux, mais ça ne suffit pas. Les pays des Balkans occidentaux aujourd'hui, c'est moins de 18 millions d'habitants. Ils vont perdre entre 20 et 30% de leur population d'ici de 20 ans. Pourquoi ça? Il y a l'attraction allemande, autrichienne, italienne. Il y a surtout le fait qu'on a des régimes que les experts locaux appellent des régimes de stabilitocratie. C'est-à-dire on assure la stabilité, il n'y a plus de conflits violents comme autrefois, mais il n'y a pas de démocratie, c'est le système serbe actuel. La question nationale albanaise, qui est la dernière grande question d'Europe au sens classique du 19e, n'est toujours pas réglée. Donc je dirais d'une certaine façon, il ne faut pas les laisser tomber, mais l'importance stratégique des Balkans est nulle aujourd'hui. Et les arguments, il y a les Émiratis, il y a les Chinois qui veulent faire un TGV avec Huawei, avec un centre de recherche à Belgrade, les Russes qui reviennent avec l'église orthodoxe, ce qui n'est pas vrai, et les Turcs. En fait, ce sont des arguments pour accélérer les processus d'adhésion, mais en fait, ça n'est plus... Le risque, c'est la marginalisation. C'est plus ça. Il ne faut pas les laisser tomber, il faut parler avec eux... mais pour l'instant, je vois pas de possibilité de retour. Vous savez, Ivan Krastev, qui est bulgare, disait la chose suivante sur la migration. Pourquoi je migre? Parce que je me rends compte que je peux rien changer collectivement à mon pays, dans un syndicat ou un parti ou dans les médias. Donc, qu'est-ce que je peux changer? Ma vie, mon corps, puisque c'est le corps à Saint-Dié. Je prends ma famille et je m'en vais. Et en fait, c'est ce qui se passe. L'euro est la monnaie du Monténégro et tout ça, on est dans la zone d'influence... germano-autrichienne et italienne. Donc je ne vois plus de conflits à venir comme dans le passé. Mais je vois pour tout de notre part un grand désintérêt. D'ailleurs, l'élargissement est complètement bloqué. Moi, j'étais à Belgrade le jour où le président de la République a annoncé notre opposition à l'adhésion, à l'entrée en négociation de la Macédoine et l'Albanie. Bon, j'ai été mal reçu, à juste titre sans doute. Mais enfin, bon, on en est là. Il n'y a plus d'élargissement pour l'instant. Essentiellement parce que l'état de droit n'est pas respecté, enfin bon, etc. Donc, comment dire, un pessimisme très relatif parce que ça devient très marginal. C'est 18 millions d'habitants. Avec un produit national brut, si on ajoute la Croatie, qui est celui du Latium. Si on l'enlève, c'est la Sicile. Donc, géoéconomiquement, ça pèse pas. Il n'est plus vrai de dire que les Balkans produisent plus d'histoire qu'ils ne peuvent en consommer, comme disait Churchill. On n'en est plus là. C'est même plus une zone de rivalité. Et qu'ils diversifient leurs relations, moi, ça me dérange pas. Si le TGV Budapest, Belgrade est construit par les Chinois, pourquoi pas? Ils sont déjà au Pirée, hein. Donc, moi, ça me dérange pas. Faut quand même arrêter de fantasmer. Mais l'OTAN progresse. En fait, les seuls qui avancent sont les Américains. L'OTAN est en Albanie maintenant et en Macédoine. En Macédoine du Nord, excusez-moi.
Sylvie Berman, si on se dirige un petit peu plus vers l'Est, si on va voir dans ce voisinage russe, là, on a une véritable rivalité et une relation qui est en train quand même de se complexifier beaucoup, non, ces derniers mois.
Oui, tout à fait. C'est une relation qui se tend, mais en fait, ça remonte en réalité à l'élargissement. Parce que j'étais à l'époque ambassadrice auprès du Comité politique et de sécurité de l'Union européenne à Bruxelles. Et le représentant spécial de l'époque, Javier Solana, rentrait de Sotchi, où il avait rencontré très longuement Vladimir Poutine, et nous discutions d'une stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, ce qui est parfaitement normal, compte tenu du fait que c'est notre grand voisin. Et j'étais là le jour de l'arrivée au Comité politique et de sécurité des nouveaux membres de l'Union européenne. Et certains d'entre eux, on les connaît bien, c'est la Pologne, c'est les Pays-Baltes en particulier, en disant « mais il est hors de question d'avoir une stratégie vis-à-vis de la Russie. La Russie est une menace ». Et c'était 2003-2004, c'est-à-dire le régime russe n'avait pas encore évolué. Poutine était assez proche des Occidentaux à ce moment-là. Mais il y a eu cette réaction qui était une réaction liée au passé. Et du coup, jamais l'Union européenne n'a réussi à formuler une vraie stratégie vis-à-vis de la Russie. Est arrivée ensuite l'affaire de l'annexion de la Crimée, de l'intervention au Donbass, et évidemment, ça a conforté les plus hostiles. Cela dit, ce que disait le président de la République quand il a eu, et c'était son idée en recevant Vladimir Poutine à Brégançon à l'été 2019, c'est que il était indispensable d'avoir un agenda, donc qu'il avait qualifié à ce moment-là de sécurité et de confiance vis-à-vis de la Russie. Donc il avait formulé un certain nombre de propositions. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de constater, puisque j'avais été en poste du temps de la guerre froide, même si c'était vers la fin, puisque c'était la perestroïka, c'est qu'en réalité, les relations entre l'Occident et l'Union soviétique étaient meilleures que ne le sont les relations entre l'Occident et la Russie aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut sortir de ça. Mais évidemment, il faut trouver des solutions, d'abord à tous les conflits gelés, et y compris celui du Donbass. Mais bon, on dit souvent en diplomatie qu'il faut être deux pour danser le tango. Et il est évident que si, quand il y a un voyage d'un haut représentant européen, on annonce l'expulsion de trois diplomates européens, il y a quand même un véritable problème. Mais on ne peut pas rester avec cette absence de relations avec la Russie.
Est-ce que le rapprochement de la Turquie de l'Ukraine ces dernières semaines, est-ce que ça, c'est un facteur qui va complexifier encore un petit peu, qui risque de tendre Moscou, la livraison de drones turcs à l'Ukraine? Est-ce qu'il y a là, pour vous, une crainte à avoir?
Alors, ce qui est intéressant dans les relations entre la Russie et la Turquie, c'est que ce n'est pas du tout des amis et que ce sont des relations qui sont problématiques. Simplement, je crois que Poutine, hein, qui s'inspire de la realpolitik, sait qu'on ne fait pas la paix avec ses amis, mais avec ses ennemis. Et du coup, c'est pour cette raison-là, alors qu'ils étaient dans des camps opposés, qu'il a lancé le dialogue d'Astana, y compris avec les Iraniens, sur la Syrie, qu'il y a eu des accords au moment des engagements des Américains, que ça a été la même chose en Libye, au Karabakh, puisqu'il y a une intervention qui a été turque. Donc il y a une méfiance de la Russie, mais en même temps, ils gèrent. Alors évidemment, ils ne sont pas très contents de la fourniture d'armes en Ukraine, mais je crois que, encore une fois, la relation qui est établie entre ces deux pays est à la fois de méfiance et d'entente obligée au cas par cas sur certains sujets.
Michel Fouché.
Oui, non, vous parliez du passé. Je crois qu'il est probablement plus présent encore en Europe, ce qu'on appelait autrefois l'Europe de l'Est, en Europe centrale et baltique. Alors, chez les Baltes, qui sont quand même des tout petits pays et qui sont aussi menacés par l'Estonie dans 20 ans, c'est 1,5 million habitants, hein. Ça sera l'agglomération Metz, Nancy, Luxembourg. Hein. Là, il y a le traumatisme du pacte germano-soviétique et l'exode forcé. Donc, la Pologne, moi, j'ai une interprétation complètement différente. D'abord, c'est un grand pays et la Pologne brandit la menace russe. Mais en fait, elle est en position offensive. Ils ont la mémoire de l'union des deux républiques, l'objectif de contrôler l'isthme Baltique-Mer Noire avec la Lituanie, qui sont des diplomates extrêmement durs, les plus anti-russes que j'ai jamais rencontrés, tout le temps. Et eux, ils veulent absolument ce glacis biélorusse, ça marche pas, hein, et ukrainien. Et sous couvert de l'OTAN, si vous voulez, c'est-à-dire la présence qui avait été souhaitée par Duda, le président, d'un fort Trump, financé par les crédits polonais, c'est-à-dire européens, qui a été refusé d'ailleurs par le Pentagone, en fait, ça sert à être extrêmement offensif sur la Russie, et les Russes le savent. Donc je ferai une distinction, si vous voulez, entre les pays baltes d'un côté, qui sont vraiment très faibles, et la Pologne. Le passé pèse beaucoup, beaucoup dans cette région. Vous avez partout des musées de l'occupation. Chaque visite officielle, on est obligé d'y aller. Oui, il y a les frontières fantômes de 1939, hein, et du pacte Ribbentrop-Molotov. Et pour la Turquie, bah, le gaz vient de Turquie. Enfin, c'est dynamique. Enfin, il y a quand même eu 15 guerres russo-turques au 18e. La mer Noire est un enjeu. Les Tatars, l'Azerbaïdjan. Poutine a laissé le président arménien se faire punir militairement, parce que voilà, etc. Ils doivent sans doute savoir jusqu'où ne pas aller, hein, j'ai l'impression, mais c'est vrai ce que dit Sylvie Verne, c'est complètement la réelle politique, mais c'est une rivalité, disons une rivalité maîtrisée. Et au fond, il faudrait qu'à Washington, on essaye de faire la même chose avec la Chine. Il y a un excellent papier de l'ancien Premier ministre australien Kevin Rudd, qui connaît bien la Chine, et qui plaide dans Foreign Affairs pour une compétition stratégique maîtrisée. On n'en est pas là. La question chinoise aux États-Unis est bipartisane, elle fait consensus, c'est-à-dire que ça devient une croyance. Il n'y a plus de débat possible aux États-Unis sur l'obsession chinoise. Mais nous, on ne peut pas rentrer là-dedans. Donc, si on revient à l'intérêt européen, l'autonomie stratégique, si vous voulez, c'est d'abord une pensée stratégique autonome, non aliénée, et on essaye de se situer autrement par rapport à cette obsession qui s'installe. Je ne veux pas dire que les Chinois sont des enfants de cœur, c'est pas ça la question.
Mais comme le soulignait Sylvie Berman, on sent l'Europe quand même très démunie face à la Russie aujourd'hui.
Non, je crois pas. Parce que on achète un peu trop de gaz à mon goût, mais ça c'est les décisions de Madame Merkel. Hein, Fukushima, on arrête le nucléaire, donc c'est du central à charbon et du gaz. Et là, le prix augmente parce que Gazprom n'augmente pas, n'ouvre pas son robinet. Bon, très bien, on s'est mis dans une situation de dépendance. Mais enfin, moi, je crois qu'il faudrait dégéopolitiser ces affaires de gaz. Il y a des contrats, il y a des producteurs, il y a des gisements, il y a des marchés, il y a des tubes, il y a des contrats à long terme, si possible. Et puis voilà, c'est tout. C'est une affaire commerciale, alors, qui est un peu exagérée, à mon avis. On est le premier débouché de la Russie. Les demandes de visa Schengen, elles ont diminué avec la pandémie, mais enfin, c'est quand même 2-3 millions, hein, 2 millions et demi, c'est le premier demandeur de visa Schengen. Ce qui est dommage, c'est le délitement des contacts humains, des coopérations universitaires. Enfin, il y a eu énormément de choses avec les Russes. Enfin, moi, quoi. Ce qui me concerne, une excellente école de géographie. Ce sont de très bons diplomates, etc., etc. Donc, tous les éléments du dialogue sont là. Ben, il faut continuer à dialoguer au plan bilatéral. C'est tout. Les relations euro-russes, à mon avis, sont gelées.
Et pendant ce temps-là, se tient la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a été lancée au printemps dernier. À partir de la mi-septembre et pendant un mois, s'est tenu à Strasbourg le volet le plus important de cette conférence. C'est un exercice de démocratie participative avec 27 pays, des panels citoyens. Chaque week-end, il y a eu un groupe de 200 personnes qui s'est réuni pour décider quelle Europe elle voulait, dans quelle direction on devait aller. C'est un reportage dans les couloirs du Parlement européen d'Angélique Ferrat.
Ils sont un peu comme des écoliers le jour de la rentrée des classes. Ils regardent en l'air, se perdent dans les couloirs et sont impressionnés par l'hémicycle du Parlement européen. Ces citoyens ont été choisis de manière aléatoire par un institut de sondage en respectant la réalité démographique de chaque pays. Mustapha Rahawi de Dunkerque se retrouve donc à Strasbourg, gestionnaire de vente pour un groupe commercial. Il admet ne pas connaître grand-chose à l'Europe.
J'ai été appelé. Alors, je ne sais pas par quel biais ils ont eu mon nom, mon téléphone ou autre. J'ai été appelé, on m'a proposé ça. Alors, je vous avoue, en toute honnêteté, que j'ai été étonné. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus restrictif, qu'on aurait un cadre assez rigide et qu'on pourrait pas s'exprimer sur tout un tas de sujets et dans les formes et les fonds qu'on souhaitait. Et au final, c'est assez libre. On n'a aucun frein, en fait. On a quelques thèmes génériques, mais on n'a pas de censure, quoi. Enfin, on est vraiment, vraiment libre.
Hein. Jessica Bongabélé, étudiante à Nanterre dans la région parisienne, se dit comme un poisson dans l'eau. Elle n'en revient toujours pas d'être au Parlement européen.
J'arrive pas à voir au quotidien, on va dire, les actions de l'Union européenne dans mon quotidien. À part peut-être la mobilité pour les étudiants, faut bien prioriser. Donc forcément, c'est pas forcément ce que je dis qui sera pris. Mais le fait déjà d'avoir pu donner mon opinion dans un cadre pareil, c'est déjà une grande chance, une grande opportunité et j'en suis vraiment très très heureuse. Vraiment.
Merci beaucoup madame.
Les citoyens ne choisissent pas leur groupe ou leur thème de travail. Alors, au moment de la pause café, certains déplorent de se retrouver à disserter sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Petra Karachova est une jeune maman slovaque de 35 ans en congé maternité. Elles se sont un peu perdues.
I was interested about the values and democracy and
Ce qui m'intéresse, c'est les valeurs et la démocratie ou la transformation numérique, mais j'ai été mise dans le groupe des questions sociales. Je fais de mon mieux car en Slovaquie, économiquement, on est encore derrière les pays de l'Ouest. On aurait besoin d'un coup de fouet, donc je peux au moins parler de la réalité dans mon pays.
Dernière séance de travail dans l'hémicycle, Beate de Koblenz en Allemagne se dit ravie d'avoir touché du doigt ce qu'est l'UE. Mais il faut plus d'Europe, selon elle.
J'ai remarqué que les gens ont un peu les mêmes idées. Ça me dit que d'autres trouvent cela important. J'ai toute ma vie connu l'Union européenne. Elle doit aller plus loin, pousser plus loin et surtout faire connaître ce qu'elle fait.
À ce stade, la liste des idées peut être encore modifiée. Plusieurs citoyens prennent alors la parole. Eduardo Forte, un étudiant, demande qu'on ajoute l'histoire de l'Europe au programme scolaire. Le jeune Italien a peur, dit-il, de la montée des mouvements populistes.
Ils rassemblent beaucoup de monde et ils diffusent cette idée qu'on n'a pas besoin de l'Europe. C'est dangereux. Ils diffusent de fausses infos. Et alors certaines personnes, à tort, se mettent à penser qu'on est mieux sans l'Union européenne. C'est faux.
Plus d'Europe, c'est le leitmotiv qu'on entend dans tous les groupes. Reste la question, que vont devenir les propositions de nos euro-enthousiastes? Guy Verhofstadt, coprésident de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne et député belge, assure que tout cela n'est pas qu'une opération de com. La Commission, le Conseil européen et le Parlement ont promis de traduire en acte les idées des citoyens.
On voit très bien qu'on a quand même du mal en Europe de répondre efficacement à des crises. La crise migratoire, on la connaît encore aujourd'hui. Il n'y a pas encore une politique commune au niveau de la migration. Il est clair qu'il faut changer, qu'il faut réformer l'Europe, parce que l'Europe n'est pas capable de survivre le 21e siècle, et certainement pas un monde qui est dominé par Chinois, Russes, Indiens, Américains. Une Union européenne qui est encore basée sur les règles de l'unanimité n'a pas de chance de survivre, je crois.
Le week-end se termine par une photo de famille. 20 citoyens sont choisis pour défendre les propositions de ce premier panel devant les institutions européennes en décembre prochain.
Je vous ai vu sourire, Sylvie Berman, Michel Fouché, en entendant ces citoyens qui étaient assez impressionnés par ce fonctionnement démocratique et cette transparence qui réclame de l'histoire européenne. C'est difficile d'arriver à faire le lien avec tous ceux qui habitent sur le continent, Sylvie Berman.
Oui, bien sûr, parce que vous interrogez les gens, ils vous disent il y a trop d'Europe, elle se mêle tout le temps de nos affaires, il y a une espèce de monstre bureaucratique à Bruxelles avec lequel on n'a aucun contact. Donc d'abord, ça peut permettre de démythifier tout ça, et la formule « on peut ainsi toucher du doigt l'Union européenne », je pense que c'est important parce que les citoyens ne connaissent pas l'Union européenne. Mais le paradoxe aussi, c'est que tous ces gens qui critiquent une espèce de superpuissance de Bruxelles sont les premiers à demander plus d'Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort des différentes interviews qui ont été faites. Et on l'a vu même au moment de la crise sanitaire. En réalité, il n'y avait aucune compétence communautaire sur la défense et qu'ont demandé les citoyens, c'est effectivement que l'Europe fasse davantage. Donc je pense qu'il est très important d'abord que les citoyens dans tous ces pays sachent ce que c'est que l'Europe, et ça fournit une occasion, qu'ils aient aussi le sentiment d'être entendus. L'élection au Parlement européen ne suffit pas à cet égard. Donc ensuite, il faudra évidemment voir que faire de tout cela, mais ça permet d'avoir une photographie des opinions et de constater que l'Union européenne n'est pas si impopulaire que ça, bon, en dehors de certains partis qui en font leur profession de foi.
Michel Fouché, vous disiez que l'euroscepticisme à la française, notamment, était en train de reculer.
Le scepticisme en France est généralisé, donc l'Union européenne est traitée comme les autres institutions. Alors, les Français sont très ambivalents. Il y a des sondages eurobaromètres qui sont intéressants parce qu'ils sont sur la longue durée, donc ça permet de comparer les variations. 55% des Français se disent, l'année dernière, mal informés sur l'Europe. Je crois qu'il y a, j'exclus Arte et RFI du panorama, et TV5 Monde, les médias télévisuels publics français ne consacrent que 2,5% de leur temps d'émission aux questions européennes. Il n'y a pas d'équipe de télévision publique permanente française à Bruxelles. Il y a 60 journalistes français à Bruxelles, 270 allemands. C'est un sujet qui n'est pas traité, Verhofstadt à dire, c'est à raison de faire la différence entre communication et information. Donc il y a vraiment un besoin d'information, à la fois sur le fonctionnement institutionnel, mais surtout sur ce que j'appelle moi l'Europe en France, ou l'Europe en Allemagne ou ailleurs. Partout, vous trouvez des actions de l'Union européenne. Donc il faudrait que les entités de gestion, qui sont aujourd'hui les conseils régionaux en France, 77% des fonds structurels, assument beaucoup plus cette appartenance, si vous voulez, européenne. Mais je crois qu'il suffit d'en parler. Vous voyez, donc il y a quand même une sous-information volontaire. On voit très bien quand Michel Barnier se présente avec une ambition présidentielle, quelqu'un de son parti lui dit « Oh, l'Europe n'intéresse personne ». Autrement dit, vous êtes disqualifié. C'est faux. C'est faux. Moi, je suis convaincu absolument du contraire, surtout maintenant. Et maintenant, les demandes, quand on regarde Eurobaromètre, c'est plus de compétences pour la pandémie, un accord pour le plan de relance, etc., etc. Donc je crois que les choses sont en train de changer dans l'opinion publique, mais il faudrait que les médias publics français et la presse régionale modifient un peu leur approche des questions européennes.
Pour parler maintenant des préoccupations des jeunes européens, c'est l'affaire d'Alice Rougeat dans sa chronique « C'est mon Europe ». Et cette semaine, Alice, vous nous parlez du logement étudiant. C'est très compliqué de se trouver une chambre dans la plupart des capitales européennes, dans certaines villes universitaires aussi. Vous, Alice, vos années à la fac ne sont pas si loin. C'est un bon souvenir ou c'est un cauchemar ?
Petite anecdote mise en bouche. Pendant mes années étudiantes, j'ai plus vécu avec des souris qu'avec mes colocataires. Et en plein cœur de l'hiver, les murs pouvaient verdir de moisissures. Sur 3 apparts, 2 étaient complètement insalubres. On s'en arrange, hein, mais c'est pas trop confort, donc souvenir mitigé.
Je viens vous croire, Alice. Plus que la vétusté, il y a des étudiants qui ne trouvent carrément pas de logement du tout.
Oui, chaque année, c'est la même galère. Des centaines de milliers d'étudiants européens font leur rentrée universitaire sans savoir où ils dormiront le soir même. Pour protester contre cette triste réalité, en Turquie, tout le mois de septembre, des étudiants stambouliotes se sont retrouvés de nuit pour camper dans des parcs. Des images qui ont ému les habitants, mais qui n'ont pas vraiment permis de débloquer des places dans des logements.
Comment est-ce qu'on explique que les étudiants n'arrivent toujours pas à se
loger, Alice?
Forcément, il y a plusieurs facteurs qui se superposent. Déjà, le prix des loyers, même s'il fluctue selon si on étudie dans une capitale ou en province. À l'heure actuelle, payer un loyer pour un étudiant, ça s'apparente plus à une saignée qu'à une transaction. À Lisbonne, le prix moyen d'un studio, c'est 1000 euros par mois. On parle de studio, hein, avec les toilettes, le lit et les épices dans la même pièce. Et on peut ajouter encore 200 euros pour se loger dans la capitale irlandaise. Autant dire que rares sont les étudiants à pouvoir débourser une somme pareille.
On sait que les recours aux Airbnb, l'incidence du tourisme ont fait grimper les loyers un peu partout. Hein.
Oui, c'est vrai. En un an, à Barcelone, le prix des locations a augmenté de 7%. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le problème des résidences universitaires. Sur le papier, c'est très chouette. Un logement près du campus, fonctionnel, meublé et pas cher. Que demander de plus, Juliette?
Mais je vous le demande, Alice.
Eh ben, des places, voyons. D'après l'association des résidences étudiantes, il faudrait en France 250 000 chambres supplémentaires. C'est pas rien. La problématique est sensiblement la même à l'échelle européenne. Exception faite de l'Estonie, où chaque établissement du supérieur propose des logements en dortoir. Là où c'est le pire, c'est aux Pays-Bas, destination très prisée par les étudiants internationaux, mais où on les accueille pas vraiment à bras ouverts. Sur Internet, les annonces pour des places en colocation ou en studio sont réservées aux Dutch, les locaux parlant néerlandais, et le pays manque de places en résidence universitaire. À Groningen, dans le centre, 600 étudiants étrangers sont actuellement sans logement.
Et en plus des problèmes de logement, il y en a d'autres qui s'ajoutent par répercussion.
Oui, tout à fait. Selon la Fondation Abbé Pierre, un tiers des 15-30 ans européens vivent sous le seuil de pauvreté. Et la pandémie n'a rien arrangé à cela parce que beaucoup de jeunes ont perdu leur job. Quand on paye un loyer hors de prix, on n'a pas très envie de se rajouter des charges. Il n'y a pas de chiffres, mais je connais personnellement plusieurs jeunes qui n'allument pas le chauffage de l'hiver. On appelle ça la pauvreté énergétique.
Et pour pallier cette pauvreté, il existe des aides?
Il en existe, oui, mais pas partout. En tout cas, il n'y a pas de réglementation européenne dans ce domaine. Mais je pourrais citer les aides pour le logement en France ou l'allocation logement général en Finlande. Mais en fait, la meilleure aide pour la plupart, c'est quand même papa et maman. En Europe, 80% des jeunes vivent chez leurs parents et ils y restent en moyenne jusqu'à 26 ans. En Croatie, ils peuvent y rester jusqu'à 32 ans. Les Européens sont donc détendus, mais on comprend mieux pourquoi maintenant.
Quand vous entendez cette chronique, cette façon dont la jeunesse, qui a très envie d'Europe et qui voyage beaucoup en Europe, se retrouve face à des difficultés, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, Sylvie Berman?
Moi, je ne suis absolument pas experte dans ce domaine, effectivement. Alors, il y avait le système anglo-saxon, des campus, où là, c'est plus facile, effectivement, parce qu'il y a des chambres, il y a les résidences universitaires, mais c'est évident qu'il n'y a pas assez de place. C'est sans doute ça qu'il faudrait pouvoir développer.
Michel Fouché, c'est...
Non, il y a eu une réflexion à l'ouverture du Festival de Saint-Dié par le recteur du Grand Est et de l'Académie Nancy-Metz sur le fait que la moyenne de réussite dans le secondaire dans la région était supérieure à la moyenne nationale, malgré des indicateurs sociaux inférieurs à la moyenne nationale, mais qu'ensuite, il y avait 3000 lycéens par an qui ne pouvaient pas faire d'études supérieures. Et la raison, c'est le logement. Alors en France, la moitié des parents ne peuvent pas payer un logement étudiant au-delà du village ou de la petite ville ou de la ville. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Alors j'ai vu que dans le plan de relance européen en France, abondé par les banques européennes d'investissement, il y a une dimension logements sociaux. Mais je n'ai rien vu de spécifique sur les logements étudiants. Ben, la réponse, c'est qu'il faudrait que deux ou trois États se saisissent de cette question, parce que c'est tout à fait possible de combiner logement, numérique, transition énergétique. Mais pour l'instant, les efforts de logement sont faits pour les gens qui ont des revenus, c'est-à-dire les gens comme moi, les vieux et les retraités, si vous voulez. Ben non, la situation est difficile et pendant la pandémie, ça a été dramatique. Non, là, je crois qu'il y a un point tout à fait important. Combiner Erasmus et logement, et de même ouvrir Erasmus aux apprentis. On le fait, mais pas assez. Donc la mobilité a un coût. La vie à l'extérieur de son propre pays est tout à fait fondamentale dans
chance.
La formation. C'est une éducation européenne.
Merci Michel Fouché, Sylvie Berman de nous avoir accompagnés. Merci au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges de nous avoir accueillis. À la réalisation, Nicolas Benita.
Géopolitique, le débat.